Ondes universitaires à l'écoute des futurs, avec Yasmine Edhia.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Graphite pour une nouvelle émission sur la vie étudiante à l'UTC. Aujourd'hui, je suis avec Johanna Daboul, qui est directrice aux relations internationales ici à l'UTC et aussi enseignante-chercheuse. Vous nous parlerez un peu plus de votre parcours si vous voulez, pour nous présenter ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire ce qui vous a amené à être à l'UTC aujourd'hui et ce qui vous anime ?
Alors bonjour à toutes et à tous. Alors merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors je pense que c'est un chemin de vie qui fait qu'on arrive là où on est aujourd'hui. D'abord, j'adore la recherche. Et j'ai toujours aimé faire de l'enseignement. Donc, je suis l'aînée sur une grande fratrie et je faisais toujours la maîtresse à mes frères et sœurs. Et j'ai commencé, dès que j'ai commencé mon parcours d'ingénieur, donc je suis d'origine libanaise, donc au Liban, dans une université américaine au Liban, j'ai commencé à regarder pour comment faire une thèse. J'ai atterri en France, à Centrale Nantes, où j'ai fait ma thèse. Et pour tout vous dire, je suis tombée amoureuse d'un autre doctorant qui a été pris comme enseignant-chercheur à l'UTC, que du coup j'ai suivi à l'UTC. Donc voilà, maintenant vous savez tout.
Merci pour cette présentation. Votre rôle est un peu particulier, responsable, directrice aux relations internationales. En quoi ça consiste concrètement? Quelle est une journée type dans votre vie?
Alors, une journée type, ça va être compliqué. On a plein de journées différentes. Mais en fait, la direction aux relations internationales est une direction à la fois administrative. Donc, on a tout un service avec beaucoup de procédures administratives pour gérer la mobilité entrante et sortante de l'UTC, y compris toutes les procédures administratives qui sont en lien avec cette mobilité, comme par exemple la gestion des bourses. Mais en même temps, c'est ce qu'on appelle une direction fonctionnelle à l'UTC. Ça veut dire que c'est des directions au niveau stratégique qui vont pouvoir aussi travailler sur l'implémentation de la stratégie de la présidente de l'UTC, donc aujourd'hui Claire aussi, et traduire cette stratégie de l'établissement à une stratégie internationale pour pouvoir développer le rayonnement et l'attractivité à l'international de l'UTC. Donc concrètement, on va travailler au niveau stratégique le développement partenarial international de l'UTC, créer des liens entre la recherche et l'enseignement pour les collaborations internationales, mais aussi de liens entre aussi notre point fort, notre connexion forte au monde socio-économique. Donc ça aussi, c'est un point fort sur lequel on travaille pour le développement de nos partenariats internationaux. Mais ça va être aussi de travailler sur des grands projets à grande ampleur qui impactent l'ensemble de l'établissement, comme des projets de campus à l'étranger, mais aussi des projets européens comme le projet d'alliance européenne. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça, la direction aux relations internationales. Donc c'est à la fois un service administratif qui travaille beaucoup sur l'accompagnement des étudiants et comment mieux les accompagner, parce qu'on travaille beaucoup sur comment les accompagner, sachant que le besoin d'une étudiante et d'un étudiant aujourd'hui a changé par rapport aux besoins de nos étudiants hier. Et en même temps, il y a cette partie stratégique aussi très fun de développement partenarial et de aussi travailler le rayonnement international de l'UTC.
Aujourd'hui, combien de partenaires internationaux compte l'UTC et comment est-ce que vous sélectionnez, vous choisissez ces nouveaux partenaires ?
Alors l'UTC, elle a aujourd'hui 227 partenaires. Dans une semaine, on aura finalisé les signatures, on sera 230 partenaires. Nos partenaires sont partout dans le monde. Comment on choisit les partenaires? Alors, encore une fois, faut voir les directions fonctionnelles un peu comme les ministres qui travaillent avec le président, donc pour nous, Claire aussi, la présidente de l'UTC, qui vont être là pour déployer la stratégie de la direction. Donc il y a d'abord un point d'entrée qui est très important, qui est la stratégie de la direction, donc aujourd'hui la stratégie de Claire aussi. En même temps, il y a la stratégie de développement international de la France. Nous dépendons d'un ministère, d'un gouvernement. Donc il y a des priorités mises en place par le gouvernement français pour le développement international. Nous sommes aussi une membre de l'Union européenne, ce qui fait aussi que nous avons les priorités de l'Union européenne, des projets qui sont traduites par des priorités sur des projets Erasmus+. Pour ceux qui ne connaissent pas, Erasmus+, c'est l'outil qui permet de créer des collaborations et des mobilités internationale entre les établissements d'éducation en Europe. En même temps, nous travaillons avec des étudiants. Donc, on va faire des focus groups et des questionnaires avec les étudiants pour savoir ce qu'eux, ils ont envie de faire. Et où est-ce qu'eux, ils ont envie d'y aller. Et quels sont les critères les plus importants dans leur choix quand eux, ils vont choisir vers où y aller. Et en fait, on prend tout ça et on propose une stratégie de développement partenarial que je tiens à dire est actuellement validée par le CA de l'UTC. Donc en fait, c'est une affaire de toute la maison, d'où il est important de prendre en compte tout le monde. Nous travaillons aussi sur les priorités des départements et des laboratoires, donc du coup des enseignants-chercheurs. Donc en prenant tout ça, on essaye de se débrouiller comme on peut pour trouver les convergences entre toutes ces stratégies pour définir des priorités. Et voilà.
Pour comprendre un peu plus toutes les possibilités qui sont proposées à l'UTC, aujourd'hui, si un étudiant veut partir à l'étranger, qu'est-ce qui s'offre à lui ? Qu'est-ce qu'il peut faire ?
Alors, il peut faire beaucoup de choses. La chose qui est la plus majoritaire, c'est d'aller faire un semestre d'études. Donc, il va aller un semestre, tout en étant étudiant de l'Université Technologie de Compiègne, il va pouvoir aller faire un semestre à l'international, revenir et faire reconnaître les crédits qu'il a fait à l'international comme équivalent à des crédits chez nous. Donc ça, c'est, il y a cette partie semestre d'études à l'international. La deuxième, c'est un double diplôme à l'international. Ça veut dire l'étudiant va être inscrit à l'UTC comme étudiant de l'UTC, mais en même temps, l'étudiante ou l'étudiant va être inscrit à l'établissement partenaire et va être étudiante ou étudiant de cet établissement-là et va acquérir à la fin deux diplômes séparés, celui de l'UTC et celui de l'université partenaire. La troisième possibilité, c'est de faire des écoles d'été et des écoles d'hiver. Donc là, c'est des formats courts de 2 à 4 semaines intensifs qui incluent aussi une découverte culturelle, apprentissage de langue, sur des thématiques bien définies. On peut aussi aller en stage. Donc, nous avons à l'UTC 2 stages de 6 mois, donc ce qu'on appelle dans le jargon UTC le TN9, le TN10, mais c'est le stage de fin d'études ou le stage ingénieur, donc TN9. Les deux peuvent être faits à l'international. Et enfin, un étudiant peut faire une césure parce que elle ou il a un projet humanitaire, d'entrepreneuriat, académique, même de découverte du monde. Donc une césure peut être aussi un projet à l'international.
Et quels sont les critères pour qu'un étudiant soit éligible à ces différentes possibilités-là ?
Alors, les critères sont différents. Alors, pour un stage, donc je vais commencer par le plus simple. Pour un stage, il faut être accepté par l'entreprise. Après, nous avons un super service de suivi des stages à l'UTC, sous la direction de la formation à la pédagogie, qui va accompagner l'étudiante ou l'étudiant dans la partie contrat, etc. Donc là, pour un stage, il faut faire les entretiens, il faut être accepté, recruté par l'entreprise. Si on parle de la césure, une césure, c'est un grand projet. Donc là, pareil, il y a un dossier à soumettre au responsable pédagogique qui va revenir aussi jusqu'à notre DFP pour acceptation ou pas. Et donc là, l'étudiante ou l'étudiant doit aussi savoir pourquoi je fais une césure. On n'a pas le droit de faire une pause dans ses études parce que juste qu'on a envie de le faire. Donc du coup, il faut qu'il y ait un vrai projet derrière, un vrai intérêt pour l'étudiante ou l'étudiant. Alors, sur les écoles d'été et les écoles d'hiver, il faut s'inscrire, avoir les prérequis. C'est un peu comme des cours. Parfois, il y a des prérequis. Et l'étudiante et l'étudiant peuvent s'inscrire. Les deux autres, où là, ils sont gérés par la DRI, donc la Direction Relations Internationales, c'est le semestre d'échange et les doubles diplômes. Alors, d'abord, il y a une compatibilité pédagogique. C'est le plus important. Ça veut dire il y a des destinations qui sont ouvertes à certains départements et pas à tous. C'est compatible pour du génie informatique, mais pas compatible pour du génie biologique. Aussi, il y a une compatibilité pédagogique individuelle, c'est-à-dire l'étudiante ou l'étudiant, où est-ce qu'ils en sont là aujourd'hui dans leur parcours ? Et est-ce que les possibilités qui s'ouvrent à eux s'ils vont chez ce partenaire permettent de bien compléter leur dossier académique pour qu'ils réussissent à la fin à valider l'ensemble de ce qu'il leur faut pour devenir ingénieur de l'UTC ? Donc, au-delà de la compatibilité pédagogique, il y a aussi des prérequis de langue. Nous avons des partenaires où il faut avoir un minimum niveau de langue. Nous avons des partenaires francophones, mais par exemple en Italie, il faut un B1 en italien. En Allemagne, il faut un B1 ou un B2 selon le partenaire en allemand. On a des partenaires où c'est anglophone, donc il faut avoir un minimum niveau de B1 ou B2 en anglais. Donc aussi, il y a le prérequis de langue. Et pour certaines destinations, vraiment pour certaines destinations, on a un prérequis de niveau académique. Parce que dans les partenaires aujourd'hui de l'UTC, je le rappelle, on a à peu près 30% de nos partenaires sont dans le top 5 national. Ça veut dire eux-mêmes, ils sont dans les meilleurs, entre 1 et 5, donc les meilleures universités et écoles du pays, de leur pays. 40% de nos partenaires sont dans les top 1000 mondiaux, donc ils font partie des 1000 meilleures universités au monde. Et nous avons 20 partenaires qui sont dans les top 200 mondiaux. Donc, bien évidemment, pour ces partenaires-là, il y a aussi une petite exigence sur le niveau académique, donc le dossier académique. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi que ça soit compatible avec l'étudiante et l'étudiant. Il faut qu'ils aillent dans des endroits où ils ont envie de découvrir, où ça leur donne envie d'aller vivre cette belle aventure. En fait, il ne faut pas aller à l'international juste pour valider la compétence internationale. Il faut aussi s'éclater, découvrir des nouvelles choses. Donc, il y a tout ça à prendre en compte.
Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est obligé de valider la compétence internationale pour avoir le diplôme d'ingénieur. Et donc, il faut passer par soit un stage, soit prouver qu'on a vécu un moment à l'étranger.
Tout à fait.
Donc, ce n'est pas que facultatif, finalement, le fait de pouvoir partir à l'étranger.
Alors ça, c'est récent. La CTI, donc, qui accrédite les écoles d'ingénieurs pour qu'elles puissent donner un diplôme d'ingénieur, a mis ce critère-là supplémentaire pour l'obtention de diplôme d'ingénieur en France. Du coup, d'avoir une compétence internationale. Mais je tiens à rappeler quand même que ça, c'est dans l'ADN de l'UTC, de la maison, parce que l'UTC a été créée en 1972. Notre premier accord a été signé en 1974 avec l'Université de Pennsylvania aux États-Unis. Et en 1981, l'UTC avait signé son premier double diplôme avec Cranfield. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est une obligation mise en place par la CTI. Mais pour nous, pour l'UTC, c'était déjà fortement conseillé. Et on envoyait déjà énormément de nos étudiants à l'international avant même que ça devienne obligatoire. Mais oui, ça l'est et c'est une obligation pour obtenir le diplôme d'ingénieur en France.
Et parfois, pour les étudiants, avoir la motivation et l'envie et les compétences pour aller à l'international ne suffisent pas forcément. Il y a parfois des difficultés, que ce soit administratives ou financières. Qu'est-ce qui est mis en place à l'UTC pour les accompagner ?
Alors, sur la partie administrative, il faut savoir que quand un étudiant part en échange ou en double diplôme, il y a une partie qui est faite par la maison, donc par l'UTC, pour nominer l'étudiant, pour faciliter aussi les démarches administratives. On essaye de cueillir le maximum d'informations sur quel dossier il faut remplir, etc., pour l'étudiant, pour qu'on les aide au maximum. S'ils ont des questions, il y a deux personnes. Valérie et Erika de la direction relations internationales qui sont disponibles pour répondre aux questions des étudiants tout le temps, que ce soit par présentiel, par téléphone ou par mail. Toute cette partie-là, il y a une aide, mais bien évidemment, c'est aussi une démarche personnelle, que ce soit pour les visas, parfois, parce qu'on en a besoin, ou il faut remplir aussi un dossier d'inscription même si on n'est pas officiellement inscrit, mais comme nous, les étudiants qui viennent chez nous, ils ont un dossier à remplir pour qu'on leur crée une carte étudiante, qu'ils puissent suivre les cours, etc. Donc ça, il y a une partie administrative, mais les étudiants, généralement, on les aide s'ils ont des questions, s'il y a des difficultés, on les accompagne. Après, il y a la partie financière. Et là, on a pas mal de bourses qui sont disponibles. Il y a les bourses sur critères purement géographiques, ça veut dire les bourses Erasmus+. Vous allez en Allemagne, si vous y restez 4 mois, pour un mois, voilà le montant de la bourse. Et donc, 4 mois, vous avez... voilà. Et donc, pour ça, la Direction Relations Internationales dépose un projet auprès de l'Union européenne. Donc, c'est notre projet Erasmus+, pour la maison, pour demander une enveloppe budgétaire pour pouvoir payer des bourses aux étudiantes et étudiants. Et je suis très fière de dire que nous avons obtenu, il y a un an ou un peu plus, le label Bonne Pratique, ce qui veut dire que l'UTC a une note de à minima 85% sur la gestion administrative et financière de notre projet et qu'on ne se trompe pas dans l'estimation de l'enveloppe budgétaire qu'on demande à l'Union européenne. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a une belle enveloppe qui nous permet de payer des bourses pour tous les étudiants partant en Erasmus+. On a aussi des bourses Brafitech, Arfitech, Mexfitech. Donc ça, c'est des bourses sur des projets qui sont déposés soit par des enseignants-chercheurs, soit par la DRI, pour obtenir des bourses pour aller en Argentine, au Mexique, au Brésil. Il y a aussi les bourses de la région, donc Mermoz, MSR, etc., qui sont des bourses sur critères sociaux. Donc, si on en a besoin financièrement, on peut avoir ces bourses-là. Donc, il y a plein de bourses différentes. On a la bourse, par exemple, pour l'Allemagne. Donc, ça, celle-ci, elle est déposée pour le double diplôme avec Braunschweig, qui est pilotée par Christine Prelt, qui est une prof à l'UTC. Et donc, elle dépose ce projet-là et elle obtient de l'argent, un budget, pour pouvoir payer des bourses aux étudiants. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bourses et... Une dernière dont je veux parler, c'est la bourse avec la bourse de la fondation partenariale de l'UTC. Donc la fondation qui aide l'UTC et l'accompagne dans l'ensemble de ses projets et que je remercie énormément parce qu'ils nous ont accordé un budget aussi pour aider les étudiantes et étudiants qui partent en double diplôme où là il y a des frais d'inscription parce qu'ils sont des étudiants de l'université donc. Ils doivent payer leur inscription à cette université-là et qui ont accordé cette année, cette bourse-là, a pu aider plus de 40 étudiants partant en double diplôme de l'UTC.
Et c'était pour payer le montant intégral ?
Non, ça dépend de où vous êtes. Par exemple, au Canada, certains doubles diplômes, ils ont le prix, les frais d'inscription dans les 1500 ou 2500 dollars par année. Mais si vous allez aux États-Unis, à notre double diplôme, qui est très prestigieux, mais cher, qui est le double diplôme de Georgia Tech. On parle de plus de 30 000 dollars. Donc, la bourse, pour aider le plus nombre des étudiants, la décision a été conjointement prise avec la fondation de donner aux alentours de entre 1 500 et 2 000 dollars par étudiant, pour pouvoir, 2 000 euros, pardon, en euros par étudiant, pour pouvoir, en fait, aider le plus grand max nombre d'étudiantes et d'étudiants.
Et il y a aussi un lien particulier avec la Chine, avec UTCUS,
oui.
Si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? De quoi s'agit-il ?
Alors, UTCUS, c'est un campus pour les trois UT, donc UTC, UTT, UTBM, qui est à l'université de Shanghai, qui est aujourd'hui dans les top 100 universités selon les différents classements internationaux. Et donc, c'est un campus de ces trois UT qui est à Shanghai, donc c'est comme une UT française, mais qui se trouve en Chine, à Shanghai, à l'université de Shanghai. Et c'est à la fois un institut de l'université de Shanghai et à la fois une UT, comme les trois autres UT. Aujourd'hui, il y a à peu près 1200 étudiants à UTCUS. Et ces étudiants-là peuvent choisir de rester et finir leurs études à UTCUS ou de venir dans l'une des trois UT pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'une de ces trois UT.
Ça, c'est pour les étudiants chinois, hongkongais.
Oui. Il y a la possibilité que nos étudiants partent à UTCUS et ça, on adore parce qu'ils partent chez nous. Donc, ils sont chouchoutés, ils sont aidés. On a aussi une personne dédiée à l'accompagnement des étudiants chinois qui viennent de Shanghai à, en tout cas pas de Shanghai, de UTCUS, parce qu'ils peuvent venir de partout de la Chine, à chez nous, ou que de nos étudiants qui vont partir à UTCUS. Donc, il y a une personne dédiée à l'accompagnement administratif, parce que là, il y a beaucoup de démarches administratives. Et cette personne, donc, c'est Madame Bao Xiachen, qui aide tous les étudiants venant et partant à UTCUS. Nos étudiants peuvent aller. On les encourage fortement parce que c'est une superbe expérience. Et en plus, ils vont chez nous. Donc, on connaît très bien la maison, on va dire. Et on peut envoyer des étudiants en tronc commun. Généralement, les étudiants en tronc commun, on ne les envoie pas très, très, très loin. On les garde un peu près de nous. Mais ils peuvent aller en tronc commun. Et peuvent partir en branche. Et aussi, nous avons un double diplôme avec UTCUS. Et donc, du coup, les étudiants peuvent avoir deux diplômes. Celui de l'UTC et celui d'UTCUS. Et donc, ça, c'est aussi un plus pour nos étudiants.
Une véritable richesse et une parfaite transition à la deuxième partie qui est, là on a beaucoup parlé des étudiants UTC1 qui veulent aller à l'étranger, mais est-ce que vous assurez aussi l'accompagnement des étudiants étrangers qui viennent à l'UTC ?
Oui, alors je tiens à dire que ça fait 2 ans qu'on a fait un grand chamboulement de notre accompagnement des étudiants entrants. Donc chez nous on les appelle les étudiants incoming, ils viennent chez nous, les étudiants entrants. On a d'abord fait beaucoup de réunions, des questionnaires, d'évaluation avec les étudiants. Et aussi, on a demandé aussi de l'aide à l'association ESN pour aussi nous faire des retours et nous remonter qu'est-ce qui va mal, en fait, pour qu'on puisse améliorer. Nous avons retravaillé notre site web complètement. Aujourd'hui aussi, nous avons développé un guide qui s'appelle le Onboarding Guide, qui est disponible en ligne, qui n'est pas que destiné aux étudiants qui viennent en échange ou en double diplôme. Tout étudiant international qui vient à l'UTC pour faire ses études peut avoir ce guide et l'utiliser. Il explique tout. Il explique l'UTC, il explique nos cours, il explique les sigles, il explique qu'est-ce que ça veut dire BFA 212. Voilà. On a eu des étudiants étrangers qui nous ont dit, en entrant, bah, en fait, je sais bien que le cours est en... C'est ça où il faut que j'y vais, mais je ne sais pas où ça se trouve, en fait. Donc, on a expliqué comment... Tout ça, on a expliqué comment faire les courses, comment s'amuser, comment voyager, tout en fait, tout. On a retravaillé aussi les consignes pour les inscriptions aux UV, parce que c'est vrai qu'on est une école pas comme les autres, qu'on a nos spécificités, et donc on a expliqué ces spécificités. On a aussi un coordinateur international qui est dans chaque département, donc qui a comme rôle d'aider les étudiants entrants et voir leur inscription, les valider, mais aussi d'aider les étudiants sortants. Donc aujourd'hui, on a aussi deux personnes dédiées à l'accompagnement des étudiants entrants. On fait une pré-rentrée avec eux, ou par exemple, en pré-rempli, on regarde avec eux, par exemple, pour la Sécu, la Sécurité sociale. Voilà, c'est une démarche à faire, mais ça, on les accompagne, on fait avec eux. Et je tiens à dire que la DRI récupère l'ensemble des dossiers qu'ils doivent remplir administrativement, et c'est nous qui les envoyons aux différents services et aux différentes personnes qui sont censées les traiter après pour que l'étudiant ne court pas à gauche et à droite entre les bureaux et l'envoi de tous ces documents-là. Donc on espère aujourd'hui, avec tout cet accompagnement, qu'on satisfait plus les étudiants internationaux rentrant chez nous et qu'on répond à leurs besoins, parce que l'objectif, c'est qu'ils passent un bon moment. Personnellement, mais culturellement parlant, ils sont pas là que pour faire des super cours et des super études. On est d'accord qu'ils vont s'éclater pédagogiquement, mais on veut qu'ils s'éclatent autrement aussi.
Et comment est-ce que vous vous assurez de leur intégration au sein de la vie associative et étudiante à l'UTC, pas que académique ?
Alors là, c'est nos étudiants qui font le job. Non, alors on travaille de près avec l'association ESN, donc Esperanto, qui a comme rôle d'aider à l'intégration des étudiants internationaux. Nous organisons des événements à la DRI tout au long du semestre, mais aussi, par exemple, là, pour chaque semestre, il y a la semaine d'intégration qui est organisée par les étudiants. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la liste des étudiants qui vont rentrer chez nous en échange, en double diplôme. Et nos étudiants sont super, il faut le dire, ils sont magnifiques. Donc, ils vont envoyer des mails personnalisés pour demander, inviter ces étudiants-là à participer à la semaine d'intégration. ESN va aussi faire une semaine parallèle d'intégration avec quelques événements dédiés aux étudiants internationaux pour leur expliquer certaines choses qui sont évidentes pour nos étudiants français, surtout sur des parties administratives ou autres. Et puis, ils vont être intégrés dans cette semaine d'intégration. Aussi, nous, on les pousse fortement à faire partie des plus de 100 associations étudiantes que nous avons à l'UTC. C'est une richesse, la vie associative à l'UTC. Donc, on leur dit, allez-y, quoi que vous aimez faire, il y a une association pour. Et aussi, nous organisons un stage intensif de langue française pendant 2 semaines en hiver et pendant tout le mois d'août en été. Et donc, dans ce stage-là, ils ont aussi des visites culturelles, une visite guidée de Compiègne, une visite dans la forêt. Et aussi, ils ont aussi des petites astuces de voilà le pic où vous pouvez vous amuser avec nos étudiants. Et donc, on essaye de les aider au maximum. Mais là, j'ai envie de dire, c'est nos étudiants qui font le max du travail. Il y a aussi le buddy system où ils peuvent avoir un étudiant buddy qui les aide et qui les accompagne. Donc, aujourd'hui, on n'a pas eu un étudiant en échange qui nous dit qu'il a été mal intégré à l'UTC. Et avec le système d'UTC où il n'y a pas une promo, ça aide énormément. Parce que les étudiants sont différents d'un cours à l'autre, donc ils vont rencontrer des personnes différentes, ce qui est une grande richesse parce qu'ils vont pouvoir accrocher avec un plus grand nombre d'étudiants que si c'était les mêmes qu'ils voyaient tout au long de la journée.
Justement, quels sont les principaux retours que vous avez des étudiants qui viennent à l'UTC et de ceux qui partent par rapport à leur expérience à l'international ? Qu'est-ce qui revient le plus ?
Alors, en positif, il y a l'ambiance de la maison. Ça revient beaucoup. Les dernières évaluations que nous avons faites, elles étaient axées sur le logement, l'accompagnement pédagogique, la disponibilité, l'accueil, etc. On n'a pas eu de retour négatif sur ces points-là. Faut le dire, c'est vrai, on n'a pas eu un point négatif sur ces points-là. Parfois, sur le logement, quand ils ne prennent pas le CROUS, parce que nous, à la DRI, nous pré-réservons des logements CROUS pour tous les étudiants qui viennent chez nous en mobilité entrante, que ce soit en semestre d'études ou en double diplôme. Mais parfois, ils décident de prendre des appartements. Et ce qui revient comme compliqué, c'est de faire le contrat de l'eau, le contrat de l'électricité. S'il y a une fuite d'eau, et comment je fais? On essaye de leur dire, bah, c'est mieux de prendre avec le CROUS, vous n'avez pas tout ça à gérer. Mais en même temps, on comprend qu'on a envie d'être dans une grande maison avec plein de colocs. Mais il y a cette difficulté-là, principalement. Et pour dire un retour négatif, je pense les week-ends. On a eu comme retour des étudiants que les week-ends, parfois, avec tous nos étudiants à nous qui partent, voir leurs parents, leurs amis, voilà. Donc là, on travaille avec le Bureau de la vie étudiante, avec le CROUS, pour, et aussi ESN, mais pour essayer de... Et aussi avec la mairie de Compiègne, qui nous aide énormément, pour essayer de proposer des alternatives, des sorties les week-ends. Sur les retours très, très positifs, aujourd'hui, on a eu les deux points qui ont eu le plus de retours positifs, c'était l'accueil et la pédagogie. Ça, on peut compter sur les super enseignants-chercheurs qu'on a à l'UTC. On a des super cours, il faut le dire. Et ça, ça plaît beaucoup aux étudiants.
Justement, par rapport à la pédagogie, la particularité de l'UTC, c'est que tous les cours sont en français, enfin presque tous les cours sont en français. Mmh. Est-ce que les étudiants internationaux, même s'ils ont un bon niveau, ne rencontrent pas des difficultés par rapport à ça ?
Alors, j'ai envie de dire oui, mais c'est partout pareil. Nos étudiants, quand ils partent en Italie, en Allemagne, au Japon, en fait, ils ont aussi la barrière de la langue. L'international, c'est aussi de passer la barrière de la langue. Mais déjà, aujourd'hui, on est passé à 47 UV disponibles en anglais. Donc, on essaye d'augmenter le nombre de nos cours disponibles en anglais. Mais après, les étudiants, la langue... Alors, ceux qui viennent chez nous ont déjà un niveau B1 ou B2 en français. Donc, ils s'en sortent plutôt bien. Le problème qu'on a, c'est que le fait qu'on a beaucoup de cours en français, il faut qu'on ait des étudiants qui n'ont pas le niveau en français, ben, ils ne vont pas venir chez nous. Par exemple, des étudiants des pays scandinaves. C'est des étudiants qui se déplacent en mobilité uniquement pour des cours en anglais. Donc, du coup, on n'a pas d'étudiants de ces pays scandinaves qui vont venir chez nous parce qu'on n'a pas suffisamment de cours en anglais. Mais les étudiants qui viennent chez nous, même s'ils ont des difficultés en français, ben, ils sont aidés par les étudiants, ils sont aidés par les enseignants-chercheurs, ils peuvent les voir. On a eu une très belle évaluation pour la disponibilité des enseignants-chercheurs. Ça veut dire que des enseignants-chercheurs ont été disponibles pour répondre à des questions supplémentaires à voir avec les étudiants étrangers. Donc ça, j'invente pas. C'est l'évaluation qu'on a eue par les étudiants entrants qui ont évalué dernièrement. Donc plutôt, ça se passe plutôt pas mal parce que à l'UTC, on est une grande famille et je pense qu'il y a le fait qu'il n'y a pas de classement entre les étudiants, il n'y a pas de rang, il y a une belle ambiance à l'UTC entre les étudiants déjà eux-mêmes, ce qui fait qu'il y a une entraide qui entraîne tout le monde.
On a déjà commencé un peu à en parler, mais quels sont les défis qui restent présents auxquels vous êtes confrontés à la DRI et est-ce que vous avez des idées pour essayer de les améliorer, des projets en cours ?
Alors, les défis principaux, je pense que l'anglais est un défi. Parce que nos étudiants souhaitent aller, par exemple, en mobilité dans les pays scandinaves, souhaitent aller en mobilité en échange aux États-Unis. Pour pouvoir satisfaire ce besoin de nos étudiants d'aller dans ces destinations-là, il faut que nous, on puisse accueillir les étudiants parce que l'équilibre dans la mobilité devient un critère très important dans le développement des partenariats. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est aussi internationaliser l'UTC. Ça veut dire un étudiant va pouvoir parler avec son prof en anglais, mais il faut qu'il soit capable de parler avec tout le monde en anglais à l'UTC. N'importe où où on se balade à l'UTC, n'importe quel service, faut qu'on soit capable de discuter en anglais avec les personnes. Et donc je pense que le défi va être aussi d'envoyer pas seulement nos étudiants. Aujourd'hui, nos étudiants partent à l'international. Nos enseignants-chercheurs partent à l'international par le fait de leur métier. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on envoie nos personnel. Il faut que le staff de l'UTC part à l'international. Tout le monde peut. Et ça, c'est possible pour aller voir ce qui se fait ailleurs et apprendre. Donc ça, c'est un défi de booster et de motiver le personnel pour aller à l'international. Un défi, mais je pense que c'est un défi mondial, c'est que là, avec le réchauffement climatique et l'importance du développement soutenable, et de mesurer notre impact aujourd'hui sur notre planète, ça crée un défi très important pour les relations internationales. Donc on essaye de maîtriser nos émissions CO2, mais par le fait qu'on se déplace, c'est contradictoire avec un souhait d'ingénierie soutenable fort à l'UTC qui souhaite d'aller vers un système, une réelle transition sociétale et écologique. Donc on essaye par exemple de développer des partenariats avec la Belgique. On se dit on peut se déplacer à l'international mais en réduisant ses émissions CO2 fortement. Donc ça aussi c'est un défi qui nous challenge. On essaye de proposer des solutions. Mais il faut que j'avoue que c'est un peu contradictoire de vouloir envoyer tout le monde à l'international tout en réduisant fortement ses émissions CO2. On essaye de proposer des choses, mais voilà. Après, pour nos projets, on a beaucoup de projets. On a nos projets d'amélioration continue, ça veut dire d'améliorer nos procédures, de digitaliser nos procédures pour que aussi ça devienne le plus rapide. Plus automatique, mais du coup aussi plus rapide, plus facile, plus user-friendly pour tout le monde, pour nos étudiants, mais aussi pour les personnes, l'équipe d'ERI qui accompagne ces étudiants-là. Nous avons le défi d'augmenter notre rayonnement international et de créer un lien très fort entre la pédagogie, la recherche et nos partenaires socio-économiques. Aujourd'hui, c'est une force de l'UTC, notre connexion au monde socio-économique. Et donc, on essaye aujourd'hui de se dire que l'international n'est pas détaché. Tous ces aspects de l'UTC sont en lien pour le développement international. Nous travaillons sur un projet d'alliance européenne qui est un regroupement d'universités européennes pour travailler sur des objectifs communs. Là, on est actuellement on travaille sur ce projet.
Quels seraient les objectifs, par exemple ?
Alors, ce projet d'alliance européenne, c'est un projet entre 9 partenaires qui a comme objectif d'être... comment raconter cette histoire simplement ? L'idée de cette alliance est de se dire, on a des grandes machines de guerre qui sont les grandes universités à 70 000 étudiants, 30 000 étudiants, 20 000 étudiants, 1 000 enseignants-chercheurs, etc. Et on a tendance toujours à favoriser les métropoles et à donner de l'argent pour le développement des métropoles, des capitales et des grandes villes. Et en fait, plus de 90% des universités en Europe sont des petites universités. Mais qui dit petite ? Dit agile, dit flexible, dit on se connaît, dit on est une famille, dit on peut tester des choses, oser tester des choses. Une grande entreprise, une grande organisation va être plus lente dans le changement qu'une petite. Donc aujourd'hui, nous déposons une alliance européenne en disant, en assumant le rôle des petites universités qui sont dans des régions, on va dire, qui ne sont pas dans les métropoles, mais qui peuvent être un acteur principal dans le développement économique, mais aussi dans la transition environnementale et sociétale de ces régions-là. Donc on dépose une alliance européenne où on dit, nous, on veut être dans nos régions respective, un acteur principal pour accompagner nos étudiants, mais aussi le monde socio-économique, mais aussi le monde politique dans cette transition sociétale et environnementale, avec un focus, ce qu'on appelle les triple transitions. Donc il y a la transition écologique, mais il y a aussi la transition digitale. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui, avec l'existence de l'intelligence artificielle et toute la technologie qui est disponible, il y a aussi une transition digitale qui peut être contradictoire, mais pas toujours. Est-ce qu'on utiliserait une technologie de haut niveau pour la médecine ? On serait tous d'accord. Est-ce que honnêtement, il faut une brosse à dents connectée, tout ça ? Je dirais peut-être pas. Et donc, d'où il y a la troisième transition, qui est la transition sociétale, qui va venir dire, est-ce que cette technologie, on en a vraiment besoin pour la société, pour l'être humain, et toujours balancer en fait ce développement technologique avec son impact sur l'environnement, mais aussi sur la société elle-même. Et donc l'alliance là des 9 universités vise à travailler sur cette triple transition, tout en étant un acteur principal des régions, en assumant le rôle et la flexibilité des petites universités. Et nos objectifs vont être d'améliorer la vie des étudiants, améliorer la vie des personnels, des enseignants-chercheurs, et renforcer toutes nos activités. C'est pour faire court, que ce soit l'enseignement, la recherche, le partenariat, que ce soit partenariat socio-économique, mais aussi partenariat avec d'autres établissements, d'autres universités.
Donc ce n'est pas qu'une simple alliance qui viserait à promouvoir la mobilité vraiment des étudiants, c'est vraiment
Absolument.
Juste des, pour travailler, réfléchir ensemble sur ces questions-là.
Nous avons six axes de travail dans cette alliance. Un de ces six est la mobilité étudiante. Mais en fait, il y en a un qui est par exemple axé sur le staff, le personnel, apprendre l'un de l'autre, les bonnes pratiques, monter en compétences, motiver. Donc ça, c'est un axe. Il y en a un qui est dédié à la recherche, il y en a un qui est dédié au partenariat socio-économique, il y en a un qui est dédié à la communication, mais aussi à la transition sociétale. Alors, une université va former des étudiants et des étudiantes. Nous, on va former des ingénieurs, ok. Mais on n'a pas que ce rôle à jouer. Nous, là où on est dans la région Hauts-de-France, à Compiègne, là, nous, on peut aussi impacter les jeunes enfants pour leur donner envie d'aller chercher ces métiers-là, de leur faire envie de faire de la science. On a aussi un rôle de vulgarisation, d'accompagnement pour tout le monde dans la société. Et donc, on a un work package, par exemple, un axe qui est dédié à ça, à accompagner aussi la société, à transmettre des connaissances et des compétences, pas que à nos étudiants, mais à tout le monde, et à donner envie aux jeunes pour aussi faire ce métier-là. Mais aussi, dans ces axes de travail, on a un travail sur l'inclusion. Comment on s'assure que tout le monde est capable de venir et de faire ce métier-là ? Pas certains, dans certains milieux, d'un certain niveau sociétal, ou avec des parents qui sont eux-mêmes ingénieurs, etc. Comment on s'assure qu'on donne envie à tout le monde ? Comment on s'assure que nos universités sont capables d'accompagner tout le monde en situation d'handicap ? Peu importe l'handicap, de milieux défavorisés, comment on donne envie aux filles autant qu'aux garçons ? Bah, qui a dit que la robotique et travailler sur des véhicules de l'espace, c'est que pour les garçons ? Bah non, c'est pour tout le monde. Voilà. Et contrairement, comment attirer des garçons en génie biologique où on a 70% de filles ? Voyez ? Donc en fait, c'est l'alliance, ce n'est pas que pour la mobilité, c'est pour améliorer la vie de l'université dans toutes ses phases.
En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça et de nous avoir partagé votre témoignage sur ces questions-là. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qu'ils soient étudiants ou pas d'ailleurs ?
Alors, j'ai envie de dire que si on regarde aujourd'hui les news, on a l'impression que le monde va mal. On voit à l'international, dans plusieurs pays, il y a des guerres. J'ai envie de dire que si chacune et chacun d'entre nous garde un esprit ouvert et elle-même soit actrice pour mettre en avant la diversité et cette interculture et la richesse de l'interculturalité des gens, le monde ira forcément mieux. Donc j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, si on veut que le monde aille mieux, et ben en fait, il faut que chacune et chacun d'entre nous soit ouvert d'esprit, accepte que, parce que c'est ça l'international, que la beauté est partout, pas dans un seul pays, pas dans une seule région, pas que chez moi, mais partout dans le monde, qu'il y a des belles choses partout, comme il y a des mauvaises choses partout. Mais accepter ce fait et se dire la beauté est partout dans le monde et garder une ouverture d'esprit, chacune et chacun d'entre nous sera actrice et acteur de la création d'un meilleur monde.
Merci beaucoup, Johanna. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission sur la vie étudiante à l'UTC.